France Inter.
Les astrophysiciens n'inventent rien, ils constatent des choses. Les comètes, ce sont des visiteurs. L'univers est plus étrange que nous sommes en mesure de l'imaginer.
Il était le scientifique le plus populaire et le plus aimé des Français. En octobre dernier, l'astrophysicien Hubert Reeves rejoignait les étoiles qu'il aimait tant. Toute cette semaine, nous lui rendons hommage en replongeant dans les archives de sa vie, en collaboration avec l'INA. Hubert Reeves, penseur étoile. Aujourd'hui, les archives inattendues.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Dans les centaines d'entretiens qu'il a accordés aux journalistes, des questions étonnantes ou des situations inattendues ont été parfois posées à Hubert Reeves. Commençons aujourd'hui avec cette archive de l'émission Interfemmes sur France Inter, consacrée à l'astrologie et aux horoscopes. C'était en mai 1976.
Parce que j'y étais dans le temps et qu'on a dit des choses qui se sont produites.
Je suis déjà allée voir une voyante et enfin elle m'a dit des trucs vrais.
Moi je crois pas tellement aux voyants, je crois un peu au truc des astres, tout ça. C'est encore possible à la rigueur parce qu'il y a des phénomènes métaphysiques, mais les voyants, j'y crois pas beaucoup.
Voilà, ça c'est un petit reportage donc, qui a été fait dans la rue par la journaliste chargée de faire l'enquête, c'est-à-dire Dominique Brimaud. Et je voudrais vous demander, messieurs, ce que vous en pensez. Monsieur Reeves, je vous ai vu prendre des notes avec attention.
Eh bien voilà, je vais vous dire ce que je pense de l'astrologie. L'astrologie se veut être la science des rapports entre les astres et nous. Et je crois que ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'ignorer un tas de faits que l'astronomie nous a appris sur les rapports entre les astres et nous. En particulier, l'astronomie nous a appris que nous venons des étoiles, que la matière même de notre corps a été formée dans les étoiles. Donc, il y a une influence très profonde dans le passé que les atomes qui forment notre corps, qui forment la vie, viennent d'anciennes étoiles qui sont mortes aujourd'hui. Je lui reproche aussi, si on peut dire, de se situer quelque part dans le temps, dans une période qui est avant la découverte des télescopes. L'astrologie ne nous parle pas des choses qui sont très importantes, comme l'existence des nébuleuses, des galaxies, l'expansion de l'univers. Il semble qu'aujourd'hui, si on veut connaître quelque chose sur le futur de l'univers et sur l'univers dans son ensemble et sur ses relations avec nous, c'est plutôt à l'astronomie qu'il faut s'adresser. L'astrologie se restreint à la science pré-télescopique, c'est-à-dire fait des planètes qui nous entourent, le moteur important de notre vie, l'influence importante sur notre vie, alors que l'astronomie nous a appris à voir beaucoup plus grand. Je reproche à l'astrologie de voir petit. Elle vous dit des choses sur Mercure, sur Vénus, sur Mars. Elle ne vous dit rien sur l'univers beaucoup plus vaste, sur sa relation beaucoup plus profonde que nous avons avec lui.
Écoutez, moi, ce que je voudrais quand même vous lire aussi, si vous permettez, parce que ça m'a un peu étonnée. La même personne, qui s'appelle Joël Rabette, écrit, fait la rubrique astrologique de Jacinthe et la rubrique astrologique de Cosmopolitan. Et pour la même période et le même signe, voici ce qui se passe. Pour Jacinthe, Lion, toujours, hein, 5 ou 9 mai. Mars fait son entrée dans votre signe le 16. Autour de cette période, vous vous sentirez bien dynamisé et pleine d'énergie, avec des envies de faire des tas de choses, entre guillemets. Oui, vraiment, quelle littérature. Alors, là-dessus, dans Cosmopolitan, Mars entre dans votre signe à partir du 16 mai. Bien, cela vous dynamisera, renforcera votre autorité et votre énergie. Vous ne manquerez ni d'audace, ni de caractère, au point même qu'on vous le reprochera parfois, ou que vous prendrez des décisions un peu trop précipitées, surtout autour du 23, où Mars sera au carré d'Uranus. Alors, je voudrais savoir, Monsieur Reeves, vous êtes le scientifique de cette émission, puisque vous êtes directeur de recherche au CNRS, qu'est-ce que vous pensez de ces deux rubriques ?
Bien, je vais vous dire, ce qui me gêne beaucoup dans l'astrologie, même la plus sérieuse, ne parlons pas de celle que vous avez mentionnée tout à l'heure.
Il faut dire que tout ça, c'est de l'astrologie de bazar.
Pourquoi
y a-t-il
de
l'astrologie de bazar ?
C'est qu'on nous présente un corps de connaissances, un ensemble de connaissances. On vous dit, voilà, les choses sont comme ci, sont comme ça. Et on ne vous dit jamais comment on est arrivé à cette connaissance, ou très rarement. C'est peu discutable. En science, on est habitué à ce que chaque affirmation, chaque progrès dans la science est très long, très difficile, se fait avec discussion, avec expérimentation, de toute espèce d'ailleurs, je ne parle pas seulement d'expérimentation physique, se fait par des débats, par des retours en arrière, par des erreurs, etc. Moi, je ne suis pas de l'avis du père Rousseau, je crois qu'il ne faut pas nier les choses, il ne faut pas être péremptoire, il ne faut pas affirmer a priori que les astres n'ont dans le moment aucune influence sur notre vie. Je crois qu'il faut rester ouvert. Mais je crois que cette connaissance de l'influence présente aujourd'hui des astres sur notre vie, je ne parle pas de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, du fait que nous sommes nés dans les étoiles, je parle du fait que est-ce que les astres aujourd'hui influencent notre vie? Et là, je ne parle pas seulement des planètes, je parle aussi des étoiles, je parle des galaxies et tout ça. C'est un sujet extrêmement intéressant. Je pense cependant qu'arriver à des connaissances à ce sujet, c'est très difficile et je ne vois pas comment on peut y arriver. Je demanderais aux astrologues qu'ils nous expliquent non seulement ce qui va arriver ou ce qui en est des influences entre les astres et nous, mais comment ils arrivent et quel est le degré de crédibilité qu'ils donnent à chacune des affirmations. Ce que je reproche à l'astrologie, c'est de ressembler trop à une religion, à une révélation. On en a eu assez de ces gens qui vous ont dit « c'est comme ci, c'est comme ça, parce qu'on vous le dit ». On veut des gens qui nous disent « voilà, on pense ceci, parce que, mais cependant, voilà maintenant le niveau auquel la connaissance doit adhérer ».
Père Rousseau ?
Je comprends bien ce que dit M. Revesz. Je ne suis pas péremptoire par négation. Dieu sait si je suis soucieux d'être ouvert. Et actuellement, je me bats contre des scientifiques trop radicaux qui ne veulent pas accepter des ouvertures de la science. C'est ainsi que si nous avions une table ronde sur la parapsychologie, je serais très ouvert, en étant toujours très prudent. Mais je demande à M. Revesz, qui est astrophysicien, qui connaît bien tout de même son affaire, si tout de même je suis étonné qu'il ne nous dise pas que l'influence d'astres lointains est quelque chose dont on ne voit vraiment pas comment ça pourrait jouer. L'influence de la Terre, l'influence de la Lune,
ce n'est pas parce qu'on ne voit pas dans le moment comment les choses peuvent marcher qu'elles ne marchent pas. On sait par exemple, il existe en physique ce qui s'appelle le phénomène de l'inertie, le principe de Mach, je ne développerai pas, qui vous montre que c'est probablement la matière qui est à l'extrémité, aux limites de l'univers, qui influence de façon profonde les lois physiques locales. Je réponds à votre question, vous dites « je ne vois pas ». Mais à tout instant, on a dit « je ne vois pas telle chose, je ne comprends pas telle chose », et après on a appris que c'était comme
ça. C'est très bien.
Notre esprit ne peut pas, par lui-même, arriver à comprendre le monde.
Oui, mais permettez tout de même, de là...
Il faut l'expérimentation, l'observation.
Ça, c'est une observation qu'on peut faire, on peut faire des recherches dans ce domaine-là, je veux bien. Mais nous introduire les signes du zodiaque, alors vous connaissez tout de même la précession des équinoxes, alors que nous savons que ça a bougé.
Là-dessus,
ça n'a plus rien de scientifique. Le jour de la naissance, c'est une chose qui n'a rien de scientifique.
Il faut qu'on arrête l'émission, malheureusement. Vous deux, vous avez pu exprimer, vous y croyez, vous n'y croyez pas. Les auditeurs pourront désormais, j'espère, choisir et savoir... Monsieur Leibovitch, je vous trouve ridicule.
Ah non, écoutez, comment voulez-vous pouvoir faire un choix alors que ceux qui t'en posent n'ont pas t'expliqué.
Monsieur Leibovitch, je vous trouve... Votre façon de nier toute action est absolument ridicule. Jusqu'à présent, j'ai encore jamais entendu parler que vous ayez fait quelque chose.
Bah écoutez, bien,
le grand public n'en a jamais entendu parler. Alors, quel intérêt ça a, vos querelles de chapelle?
Évidemment, on a été censuré.
Censuré? On vous censure pas, on vous invite.
Vous voulez le dossier?
Votre choix de question est une censure implicite et objective.
Pardon ?
La manière dont vous engagez le débat, le choix des questions que vous faites est une censure implicite et objective.
Je vous ai laissé la possibilité de vous défendre, vous ne savez même pas vous exprimer, vous n'arrivez même pas à dire les mots les uns derrière les autres pour vous défendre. Alors ne venez pas me parler d'objectivité. Hein.
Archives mémorables de mai 1976, la vie extraterrestre et les ovnis, autre thème sur lequel Hubert Reeves a été interrogé. C'était en 1982, en mars, dans l'émission Vous avez dit étrange, présentée à l'époque par Jacques Pradel.
Ça pose la question justement des possibilités de vie extraterrestre. Quelle est votre position là-dessus?
Eh bien, ma position, on ne peut pas avoir de position ferme parce qu'on n'a rien observé jusqu'ici, on n'a aucune donnée positive. mais on peut, par des arguments indirects, arriver à la conclusion. Et là, encore une fois, il y a des débats, tous les scientifiques ne sont pas d'accord. Mais moi, je pense que le fait que la matière s'organise tellement volontiers, chaque fois qu'elle en a une chance, on a retrouvé des molécules interstellaires assez complexes un peu partout dans l'univers, on trouve des atomes qui se sont formés partout, on trouve des étoiles, on trouve des galaxies, tout ça, ce sont des formes d'organisation de la matière. Cette espèce d'homogénéité, de communauté d'organisation nous permet de penser, nous incite à penser que elle, si elle existe au niveau les plus inférieurs, qui sont les niveaux atomiques ou moléculaires, elle existe vraisemblablement aussi au niveau supérieur. Donc c'est un argument qui vaut ce qu'il vaut. Moi, je le trouve assez convaincant, mais comme je vous dis, tout le monde n'est pas d'accord.
Alors justement, est-ce que vous pensez qu'on a une chance un jour de déceler une trace de vie extraterrestre avec les moyens du bord, les moyens actuels? Parce qu'il y a eu quelques petites alertes dans le passé, je pense notamment, je n'ai pas les détails en tête, mais vous avez certainement lu ces informations. Oui. Enfin, les Russes, un jour, ont laissé entendre qu'on avait capté un certain nombre de signaux qui semblaient être organisés, intelligents, etc. Puis on s'est aperçu que c'était des quasars. Enfin, des espèces des pulsars, pardon, des sortes de radiosources de l'univers, oui, etc. Il y a pas mal de projets américains. Je sais pas, j'avais entendu parler du projet OSMA, etc. Oui. Et on a un peu l'impression que dans ce domaine, c'est très aléatoire. Quoi. Je veux dire, on va explorer une bande comme ça de fréquence parce que c'est ce qu'on aurait fait, nous, dans le sens inverse.
Bien sûr. Oui, il y a eu plusieurs efforts qui ont été tentés. Le résultat a toujours été nul. Et on peut se demander si cette absence de résultat doit être prise comme une preuve qu'il n'y a pas grand-chose, ou bien si on doit, au contraire, comme vous venez de le dire, l'interpréter en disant, ma foi, est-ce qu'on a vraiment passé tous les canaux? Est-ce qu'on a écouté dans toutes les... Est-ce qu'on a couvert toutes les possibilités?
Est-ce qu'il y a autre chose que la radio, les radiofréquences?
Oui, je ne sais pas. Moi, j'imagine mal qu'une civilisation extraterrestre n'émette avancée sur le plan technologique, puisque là il s'agit de détecter une civilisation avancée, n'émettent pas des ondes radio. Je pense qu'il y a un développement de la science qui doit se faire un peu partout de la même façon, et je crois qu'un jour ou l'autre, ils doivent découvrir le rayonnement radio et communiquer entre eux un peu comme nous le faisons.
J'ai envie de renverser un peu la question, Hubert Reeves, à l'envers. Si, quelque part, un certain nombre d'êtres intelligents cherchaient à trouver des traces de vie dans l'univers, est-ce que notre planète serait repérable?
Ah oui, très facilement.
Et à quelle distance?
Très, très facilement. Pour vous donner un exemple, supposons qu'une planète semblable à la Terre émette un rayonnement radio semblable à celui de France Inter, BBC, disons les émetteurs les plus puissants qu'il y a sur la Terre. Mais il faut savoir que ces émissions qui sont captées par nos auditeurs s'en vont aussi dans l'espace très très loin et se répandent en fait dans toute la galaxie et même au-delà. Eh bien, on peut se demander la question, est-ce que nous on pourrait les détecter? Ou plus exactement, plus spécifiquement, avec les radiotélescopes que nous avons ici sur la Terre, jusqu'à quelle distance pourrions-nous détecter une planète analogue à la Terre? Eh bien, on s'aperçoit qu'on pourrait couvrir la distance, un volume qui engloberait plusieurs milliers d'étoiles. C'est-à-dire que si l'une ou l'autre des quelques milliers d'étoiles les plus rapprochées du Soleil possédait les planètes, qui possédait des civilisations développées, qui possédait l'équivalent de la BBC ou de France Inter ou ce que vous voulez, eh bien, on aurait pu déjà les prendre. Donc, on a déjà des moyens relativement puissants. C'est pas simplement faute de moyens.
Donc, ça veut dire quand même que dans la banlieue proche, on est quand même un petit peu isolé. Là,
dans la banlieue proche, personne jusqu'ici semble émettre en radio. Mais la question n'est pas complètement réglé parce que on n'est pas certain d'avoir couvert toutes les bandes passantes. Et les bandes passantes ne sont peut-être pas définies de façon aussi simple que sur la Terre, une civilisation plus avancée peut émettre d'une façon différente. Nous recevons beaucoup de signaux radio du ciel, effectivement. Le Soleil, les planètes, les galaxies émettent beaucoup de signaux radio. Mais nous n'avons jamais pu trouver dans ces signaux radio quelque chose qui donne la preuve d'une intention, d'une intelligibilité, d'un langage, quelque chose. on ne le comprendrait pas, bien sûr, mais on verrait bien qu'il s'agit d'un langage et non pas de friture. Mmh. Et ça, ça pose problème, il n'y a aucun doute.
Alors, les ovnis, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Vous documentez un peu sur la question?
Oui, je me suis beaucoup intéressé à cette question des ovnis, parce que j'ai eu à faire des émissions et j'ai lu des quantités de documents. Mais d'une façon plus générale, avant d'aborder les ovnis, je voudrais dire une phrase sur les phénomènes paranormaux. C'est que je crois qu'il faut, tenir compte, il faut se souvenir d'une chose, c'est que nous vivons dans un univers qui est très étrange et nous avons tendance à sous-estimer le côté étrange de l'univers. Et que je me rappelle d'une phrase d'un biologiste anglais qui disait « Non seulement l'univers est plus étrange que nous le pensons, mais il est plus étrange que nous sommes en mesure de l'imaginer. » Je crois que ça, il faut tenir compte de ça, c'est que nous connaissons très peu de choses. Mm-hmm. Et c'est pour ça que il convient d'être extrêmement prudent dans tous ces domaines. Il ne convient pas d'entrer là-dedans avec l'impression que nous connaissons à peu près tout et que, à ce titre, nous pouvons nous permettre d'être dogmatiques dans un sens ou dans l'autre.
Alors souvent, on dit, bon, c'est un peu facile, évidemment, c'est un lieu commun, mais au pays de Descartes, c'est un peu normal. Vous êtes Québécois, comment est-ce qu'on aborde ces sujets-là sur le continent américain, soit au Québec, soit en Amérique?
Oh, je ne crois pas qu'il y ait une tendance particulière. Il y a de tout. Vous allez trouver là aussi des gens qui sont farouchement contre et des gens qui sont farouchement pour. Je crois que ça ne fait pas... Je ne sais pas jusqu'à quel point Descartes intervient à ce niveau.
Je dis ça parce que je sais que vous êtes allé à Stanford, par exemple, où il se passe beaucoup de recherches dans ce domaine-là.
Oui, je suis allé effectivement... je suis très curieux. Je n'ai pas de conclusion, personnellement. Et mon impression générale, si je devais la résumer en un mot, sur tous les phénomènes paranormaux, c'est qu'il y a là quelque chose qui nous échappe. Je ne suis pas du tout d'accord qu'il faille mettre tout cela à la poubelle. Mais je ne sais pas très bien quoi en faire. Je crois surtout que nous sommes dépassés par ces événements et que nous n'avons pas la méthode. C'est une question de méthode, c'est une question de méthodologie. Je ne serais pas étonné qu'au prochain siècle, ces phénomènes soient étudiés et qu'on ait mis sur pied une méthode et qu'on les trouve intéressants et qu'ils deviennent un objet de recherche scientifique et psychologique. Mmh. Ça, c'est mon opinion. Je crois qu'il faut être assez humble quand on ne comprend pas quelque chose pour ne pas le rejeter systématiquement en se disant « c'est de la foutaise ».
Ça nous amène, j'allais dire, au problème des ovnis, parce qu'un grand parapsychologue, appelons-le comme ça, avait réclamé dans un article que je trouvais très intelligent, une science du témoignage. Et alors, le domaine des ovnis, justement, vous qui êtes habitué à l'observation et à l'analyse des informations que vous donnent des instruments, dans les ovnis, on a des témoignages humains surtout.
Oui, mon impression sur les ovnis, si je devais la résumer en un mot, c'est qu'il faut chercher une interprétation du côté psychologique. Je crois que les ovnis, en très grande majorité, c'est le même type de phénomène, sont dans la foulée des apparitions. Les ovnis, c'est les apparitions de l'homme moderne. Les apparitions ne sont pas un phénomène nouveau. On en trouve dans toutes les histoires, dans toutes les religions, que ce soit la Sainte Vierge à Fatima ou le Christ aux personnes qui défendaient Jérusalem au moment où ils allaient périr. On en trouve aussi dans les mythologies hindouistes et chinoises. C'est un phénomène très connu. Et l'interprétation psychologique qui me paraît la plus vraisemblable, qui est celle de Carl Gustav Jung, c'est que ce sont c'est une espèce de projection de l'inconscient vers... C'est un appel au secours. Mmh. L'homme qui se sent perdu à un moment donné, qui se sent dans un état de crise, cherche dans le ciel une réponse et... projette donc ces images, soit d'un Christ rassurant, soit d'une ovni qui vient dire « il faut arrêter de faire la guerre ». Et la seule différence entre les ovnis et les apparitions classiques, c'est que les ovnis d'abord revêtent un caractère technologique. Ce sont des appareils qui sont revêtus des attributs technologiques modernes. Ce sont des avions. Mais ce sont quand même des attributs un peu surnaturels, puisqu'il s'agit d'avions qui font des choses qui sont en dehors de tout ce qu'on admet généralement. En fait, si quelqu'un vous raconte qu'il a vu un avion normal, eh bien, ça perd tout son intérêt. Il faut absolument qu'il donne à cet avion des caractéristiques, accélération fabuleuse, freinage extraordinaire, traînée lumineuse,
disparition et apparition.
Tout ce qui vous avertit, eh bien, vous êtes dans le domaine de l'extraordinaire et du surnaturel. Et à ce titre, il relève pour moi de la même démarche psychologique que les apparitions qui ont toujours existé.
Alors cela dit, c'est aussi un point de vue très rassurant. Il faudrait dire que le mythe serait un peu abîmé si on pouvait aller plus loin. C'est-à-dire si ces fameuses apparitions laissaient vraiment des traces avérées.
Alors oui, ça, il n'est pas exclu qu'un jour ou l'autre, une véritable soucoupe volante apparaisse et nous laisse enfin des preuves tangibles qui soient autre chose qu'une rumeur, qu'une luminosité vague, que des photos qui ressemblent à un chapeau, un casque de militaire allemand. Il n'est pas exclu. Mais jusqu'ici, moi, les centaines de documents que j'ai regardés, je n'ai jamais rien vu qui vaille la peine de s'y arrêter plus de 5 minutes. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat.
Et pourtant, on fouette à tour de bras le chat au CNES depuis pas mal d'années, là, maintenant.
Oui, je sais, mais enfin, bon, chacun fait ce qu'il veut.
Hubert Reeves, penseur étoile, suite de notre série dans un instant, juste après James Blake, Loading sur France Inter.
France Inter.
Hubert Reeves, Penseur étoile, la suite de notre série. On part en novembre 1986. Hubert Reeves se retrouvait en face à l'époque de trois journalistes dans l'émission Interlivre sur France Inter. On y a parlé entre autres, vous allez le voir, de Marseillaise et de foie gras.
Interdire un auteur face à la presse, ce soir, Hubert Reeves, dont le dernier livre, L'heure de s'enivrer, vient de paraître au Seuil. Hubert Reeves, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, pour vous interroger, Dominique Simonet de l'Express, Martine Barrère de La Recherche et Pierre Bonsaine de Lire, qui chacun vont tenter de vous définir, vous ou votre livre, en un ou deux mots. Dominique Simonet.
Oui, pour moi, Hubert Reeves est un peu l'archétype du scientifique aujourd'hui. La tête dans les étoiles, mais les pieds résolument sur Terre.
Martine Barrère.
Pour moi, c'est un cosmologue qui se pose la question d'un homme.
Pierre Bonsaine.
C'est un petit peu la même chose. Pour moi, c'est un astrophysicien pour qui une étoile reste beaucoup plus importante qu'une formule mathématique.
Hubert Reeves, où une étoile est née. Elle nous vient, merci cousin, de la belle province, ce qui prouve, en était-il besoin, qu'au Québec, on sait préserver notre langue tout en imitant le général de Gaulle qui, une fois rentré à Colombey et regardant les étoiles, restaurait sa sérénité selon ses propres paroles. D'abord Reeves, R-2-E-V-E-S. Pour quelqu'un qui vient de la belle province, ça ne me plaît pas beaucoup, ça.
Oui, ça, c'est une déformation. Le nom original, c'était R-I-V-E-S.
C'est très bien, c'est de chez nous, ça.
Mes ancêtres sont de Honfleur, Rouen, Vatteville, 15e siècle. C'était des armateurs qui sont venus au Québec vers les années 1700. Et vers le 19e siècle, vers 1850, il y a eu une vague d'industrialisation au Québec. Et il était de bon ton, apparemment, d'avoir un nom à consonance anglaise. Et on voit dans les registres le nom passé de R-I à R-2-E.
Ah, il m'avait dit tout à l'heure, j'ai pas envie de changer mon nom, on s'habitue.
Oui, maintenant que je l'ai, je le garde.
Une étoile est née, ça vous embête ?
Oh.
Bon, c'était un jeu de mots par rapport au merveilleux film de Cucor, mais enfin,
voilà.
Quand même,
hein. Oui, c'est... pourquoi pas.
Oui, Pierre Bonsaine.
Oui, vos ancêtres, c'était des marins, mais c'est parce qu'ils étaient marins aussi que vous avez découvert les étoiles sur un bateau, en fait.
Oui, on peut dire, il y a effectivement dans le ciel marin, je comprends que les marins se soient toujours intéressés aux étoiles, non seulement pour naviguer, non seulement pour se reconnaître, mais aussi parce que le ciel vu de la mer... La mer est un des rares endroits aujourd'hui où on peut encore voir le ciel, voir par exemple la Voie lactée.
Même Orion.
Orion, c'est un peu plus visible. Mmh. Mais la Voie lactée...
Ça dépend où on se trouve.
Pardon ?
Ça dépend où on se trouve, sur un bateau.
Bien sûr. Mais pour voir la Voie lactée, par exemple, il suffit d'un lampadaire à quelques distances pour qu'elle soit très, très difficile à voir. Et la mer est effectivement un endroit idéal. Les gens qui ont fait de la navigation à voile la nuit en mer en gardent toujours un souvenir, une émotion fantastique.
Vous en avez fait beaucoup, vous ?
Pas beaucoup, mais suffisamment pour que ça m'ait beaucoup marqué.
Pierre, si je citais Orion à Hubert Reeves, c'est parce qu'il raconte quelque part dans une interview au magazine Lui, je crois, que vous vouliez montrer à quelqu'un Orion, un spécialiste d'Orion, il avait peur d'être déçu. Formidable, non ?
Oui, c'est une curieuse de relation qu'ont certaines personnes au ciel. Ce n'est pas neutre, le ciel.
Martine Barrère.
Moi, j'aimerais revenir sur le contenu du livre et plutôt... Sur les deux parties très distinctes.
Surtout y venir.
Très distinctes du livre. Il y a une partie qui prolonge le travail que Hubert Reeves fait depuis longtemps, qui est une partie de vulgarisation. Et il fait une déclaration qui, à mon avis, est importante et que je n'avais pas vue dans les précédents livres, qui est de dire « La vulgarisation, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant en soi. Elle doit servir, en gros, à permettre aux gens d'acquérir l'esprit critique. » C'est une première chose. Il y a une deuxième partie totalement... je dirais presque déconnecté du livre, qui est sur les questions que l'homme peut se poser aujourd'hui. La bombe atomique,
la philosophie,
ouais. La bombe atomique, l'énergie nucléaire, mais ça va jusque les courses d'automobiles dans le Sahara,
Paris-Dakar,
bon, j'en ai revu plein d'autres comme ça, ou là, à ce moment-là, Hubert Reeves se pose des questions que n'importe quel homme peut se poser. Quelle connexion de fait il y a entre la vulgarisation qui doit amener à l'esprit critique et la partie plus philosophique du livre ?
Alors le but du livre, c'était donc de montrer que nous sommes dans un grand péril, ce que tout le monde sait, mais c'est intéressant de le revoir dans un contexte un peu plus vaste.
On ne l'a pas toujours été ?
Disons qu'avec l'avènement de l'ère nucléaire et l'avènement des bombes, le péril est plus grand que jamais. Et j'essaie de mettre en contraste deux aspects curieusement différents de la réalité. Il y a un côté sympathique, si on peut dire, disons le beau côté de la médaille, qui est cet univers qui s'organise pendant 15 milliards d'années, qui part de ce chaos initial, qui donne naissance à des systèmes de plus en plus complexes, évolués, jusqu'à arriver à ce qui nous paraît la merveille des merveilles, en tout cas chez nous, le cerveau humain, l'intelligence humaine. Et en parallèle, on voit cette même intelligence humaine qui est occupée et qui ne semble avoir rien de plus pressé que de préparer, grâce à cette intelligence, grâce à ses capacités, à son efficacité, un armement toujours plus précis, toujours plus puissant, qui pourrait très bien un jour réduire à zéro, remettre à zéro toute cette formidable organisation de la complexité cosmique. Alors, que faire devant cette situation ? Alors, je pense qu'il est inutile de s'en tenir à des grands principes, à dire de pieuses généralités. J'ai essayé d'être un peu plus précis et de dire est-ce qu'il y a des points concrets à l'intérieur de notre sphère d'activité qui pourraient peut-être neutraliser cette espèce de pulsion de mort qui est présente dans l'humanité. Alors, quels sont les points pratiques précis que l'on peut faire, par exemple, pour essayer de favoriser la pulsion de vie et neutraliser la pulsion de mort? Alors, c'est là que je ne crois pas aux grands principes, aux grands slogans, changer la société, etc., etc. Je pense que toute action personnelle, et pour reprendre le mot de Dubos, je pense qu'il faut penser globalement et agir localement. Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre petite sphère? Toute action personnelle est forcément reliée à des réflexions sur des événements de la vie. Alors, on a parlé tout à l'heure de la Marseillaise. Ça n'est pas du tout indépendant. Le fait, par exemple, que je fais remarquer que pour un Québécois comme moi, qui débarque un jour en France et qui réalise avec une certaine surprise que le pays qui a donné naissance à la Déclaration des droits de l'homme, qui est un magnifique point à mettre
on en fêtera le bicentenaire de la France, dans 2 ans et demi.
C'est aussi un pays qui, et là je me rappelle certains matins de juin où mes enfants étaient à l'école et on était à la distribution des prix, des beaux matins où il faisait très beau, les professeurs, les enseignants, les parents, et tout le monde chantait, on chantait tous en chœur, qu'un sang impur
qu'un sang gain pur.
Et je n'ai pas pu m'empêcher d'être... Mais je me disais, mais il y a quand même un contraste énorme entre les deux. Comment est-ce qu'on peut tolérer ces deux choses? Et est-ce que c'est neutre de faire chanter à des enfants qu'un sang impur abreuve nos sillons? Je crois que les mots ont un certain pouvoir, et quand les mots sont admis, adoptés et chantés en présence des parents, des maîtres, donc avec toutes les autorités possibles, ces mots peuvent avoir un effet négatif à la longue. Et je pense que c'est à ce niveau de nettoyer, par exemple, le langage, nettoyer des comportements, qu'on peut amener, peut-être, s'il n'est pas trop tard, une neutralisation de la pulsion de mort.
Hubert, voilà, vous faites un procès à Roger de Lille, là. En fait, la Marseillaise est devenue un symbole, et pas que pour les Français, vous le savez. Dès qu'il y a mouvement de liberté, on a pu voir, par exemple, à Budapest, en 56, on chante la Marseillaise. Alors oui, qu'un sanguin pur abreuve nos sillons.
Je crois que l'air est entraînant.
C'est pas très grave.
Et qu'on pourrait garder l'air. Je propose dans le livre qu'on fasse un concours à l'échelle des lycéens, par exemple, pour trouver des paroles qui sont un peu plus en harmonie avec l'esprit du temps, un peu plus en harmonie avec « touche pas à mon pote ». Comment est-ce que vous pouvez dire « touche pas à mon pote » et qu'un sang impur abreuve nos sillons? Vous voyez bien qu'il y a quelque chose là.
Oui,
qui...
Pierre Bonsen.
Oui, mais pour reprendre l'objection qui vous a été faite là, quand même, dans votre livre, on trouve par exemple une dénonciation du Paris-Dakar ou alors par exemple du foie gras. Mais ce qui est gênant, c'est qu'on a l'impression que cette dénonciation, vous la faites, et après tout, pourquoi pas, je veux dire, mais vous la faites en tant qu'astrophysicien.
Non, il y a un chapitre où, quelques pages auparavant...
En fait, Martine Barret a raison, il y a deux parties dans le bouquin. Oui.
Je crois pas. Je crois qu'il y a ce lien que j'ai essayé de montrer, et je dis quelques pages auparavant, je vais présenter quelques points de vue très personnels, tout à fait discutables, et très bien s'ils engagent la discussion, qui sont des efforts personnels pour essayer de penser un peu la réalité au niveau du comportement pour voir quelles sont les choses qu'on pourrait faire. Par exemple, il y a toute la sensibilité par rapport à tuer. elle a changé depuis l'époque romaine. On n'a plus des jeux du cirque aujourd'hui où on va voir des milliers de gens se faire bouffer par des tigres, mais il y a encore des chasses à cour, il y a encore une attitude vis-à-vis de tuer les animaux, vis-à-vis de faire souffrir les animaux pour avoir une nourriture foie gras, meilleure. J'en foie gras, ça, il me paraît qu'une réflexion...
Est-ce que vous mangez du foie gras, Gaston Pierre Monsignor?
Non, je suis tout à fait opposé...
Vous êtes végétarien?
Non, je ne suis pas végétarien. Je pense qu'il faut tuer. La nature nous impose de tuer pour manger. La loi de la nature est une loi qui est dure, il faut en tenir compte. On doit tuer, et les végétariens tuent des plantes. Et sur ce plan, je crois qu'ils ne sont pas vraiment différents des autres. Cependant, il faut essayer de réfléchir pour minimiser les dégâts. Si vous voulez, j'aime beaucoup l'attitude des Indiens d'Amérique qui disaient, avant de tuer une bête, excuse-nous, mais c'est toi ou nous, on a faim, on va te tuer. Bon, c'est une attitude très différente de la chasse à cour. Il y a comme un respect de la vie qui fait qu'on accepte de tuer, mais avec regret. Mais on ne fait pas souffrir pour avoir une meilleure nourriture. Vous voyez, c'est là qu'est toute la distinction. C'est pas de tuer ou pas tuer. C'est quelle attitude avez-vous devant tuer?
Oui, moi, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quand même une disproportion énorme entre ce que vous dites. Vous nous décrivez 15 milliards d'années d'évolution cosmique. Alors, c'est vraiment la grande saga de l'univers. On part des particules, des planètes, les astres, les molécules, les êtres vivants, etc. Et puis, bon, il y a un constat extraordinaire. C'est on arrive à l'homme. C'est ça. L'homme, cet animal, il n'a qu'une seule idée en tête, c'est de se détruire lui-même.
Apparemment.
Alors, bon, alors, vous faites ce constat-là. Et puis, qu'est-ce que vous en déduisez? Il faut changer la Marseillaise. Je me demande si en vous plongeant comme ça dans la philosophie et la métaphysique, vous ne traduisez pas d'une certaine manière un certain désarroi des scientifiques aujourd'hui qui sont confrontés à ce problème. Effectivement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Je veux dire, est-ce que c'est pas justement, est-ce que vous n'êtes pas un reflet d'une grande interrogation de la science actuellement? On voit Testard, le biologiste qui arrête ses recherches. On vous voit vous interroger non seulement sur l'évolution de l'univers, mais sur la bombe atomique, sur la dissuasion. Alors, est-ce qu'il se passe pas quelque chose? Est-ce qu'il y a pas un grand malaise dans la science actuellement?
Mais bien sûr, il y a justement la prise de conscience que le jeu d'apprenti sorcier que l'humanité joue depuis très longtemps a pris de telles proportions qu'il est maintenant pensable que ce jeu d'apprenti sorcier amène des catastrophes absolument extraordinaires. C'est ça. Vous avez tout à fait raison de dire ça.
Martine Barrère.
Moi, c'est la critique la plus forte que je porterai au bouquin d'Hubert Reeves. C'est-à-dire que c'est cette problématique. Bon, il a fait d'abord la vulgarisation, ensuite il fait de la philosophie. Mais finalement, il ne s'engage pas au niveau de ce qui est son métier. Parce que son métier, c'est de faire de la science. Et la science va avec la vulgarisation, donc c'est une partie. Mais son métier de scientifique, il ne le remet pas en question au travers des livres qu'il écrit. C'est-à-dire que c'est un peu trop facile que de dire « Bon, ben la bombe, finalement, c'est la faute aux physiciens nucléaires. L'énergie nucléaire, c'est la faute aux physiciens du CEA ou de l'EDF. Les manipulations génétiques, c'est la faute aux biologistes. Moi, je fais de la cosmologie. » Ma faute, je l'ai nulle part. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, et ce n'est pas un désarroi, ce que je pense à l'heure actuelle, c'est que si le scientifique ne déborde pas le cadre philosophique qui est celui de Reeves, qui est celui de Jacquard, qui est celui d'un tas de scientifiques à l'heure actuelle, qui se mêlent, je dirais, sans côté péjoratif, mais qui se mêlent de faire de la philosophie, est-ce que leur responsabilité de scientifique n'est pas en même temps de poser les questions sur l'objet de la science, de se les poser à eux-mêmes, au sein de leur propre milieu, de leur poser à l'extérieur, et de faire qu'en sorte la démocratie joue, c'est-à-dire que finalement le public ne soit pas mis devant de la vulgarisation ou autre chose, mais qu'il prenne ses responsabilités aussi.
Moi, je ne vois pas en quoi on
accusé, levez-vous.
Aujourd'hui, intérêt
restez assis.
Dire cessons de faire de la cosmologie, parce que je ne vois pas en quoi la cosmologie est de près ou de loin une menace à l'humanité. Tout à fait au contraire, je pense que la cosmologie, en tant qu'elle nous amène des connaissances sur l'univers, sur comment il fonctionne, et donc sur comment se place cet homme, comment l'homme que nous sommes s'insère dans l'univers, dans ce courant de progression, au contraire, c'est une prise de conscience de la place de l'homme dans l'univers, et en ce sens, je ne vois vraiment pas d'effets maléfiques, je ne vois que des effets bénéfiques. J'ai toujours refusé de travailler à l'armement nucléaire, c'est un choix.
Qu'est-ce que vous faisiez à la NASA, alors?
La NASA, ça n'a rien de... c'est pas de l'armement, c'est l'exploration de l'espace.
Par exemple. Pierre Bonsen.
Bon, chez vous, Hubert Reeves, on vient de parler un peu de science, le côté sérieux, mais il y a aussi le poète et le rêveur. Et justement, il y a la revue Minitel Magazine qui est un nouveau mensuel, qui vient d'organiser un concours dont vous êtes le président du jury. Il s'agit d'envoyer des messages aux extraterrestres. Quel message, vous, disons, c'est hors concours, ça, quel message vous enverriez aux extraterrestres?
Alors, je vais vous dire pourquoi cela m'amuse, m'intéresse, pourquoi j'ai accepté de participer à ce jeu. Ce n'est pas parce que je pense que cela sera reçu, c'est une espèce de bouteille à la mer. L'intérêt est de mettre des gens dans une position de s'identifier à des terrestres, c'est-à-dire de retrouver une identité planétaire. Quand quelqu'un, vous lui dites, écrivez quelque chose que vous allez envoyer à des extraterrestres, tout d'un coup, les barrières français, hommes, femmes, autres, tombent. Et nous c'est,
oui, mais c'est
la création d'une sorte d'identité terrestre, et je trouve que c'est un exercice qui est intéressant, précisément.
D'accord, mais ça, c'est
de s'identifier
comme vous dites...
à l'humanité en tant que telle, et non pas à telle ou telle partie.
Mais là, comme vous diriez, là, ça, c'est des généralités. Pratiquement, oui. Quel message vous envoyez-vous aux extraterrestres?
J'ai envoyé un message, déjà. J'ai joué à ce jeu,
lequel,
je l'ai envoyé. Bon, je ne l'ai pas présent à la mémoire, mais c'est un peu un message qui est en relation un peu avec le livre. C'est que je pense que cette crise que nous traversons aujourd'hui, cette crise d'avoir une telle puissance et d'être apparemment incapable de gérer notre puissance, de dominer notre domination de la matière... Je pense qu'elle doit être présente chez beaucoup d'autres civilisations. Et je pense que les civilisations qui existent encore aujourd'hui et qui ont atteint un niveau élevé sont probablement des civilisations qui ont passé qui ont réussi l'examen de passage.
Hubert Rive, est-ce que vous êtes, je vais me prendre pour Chancel, vous êtes un homme heureux?
Oui, certainement, oui.
D'accord.
J'adore vivre.
Comme d'hab, je sais pas par où commencer le discours. Je sais surtout que j'ai surtout pas d'avis, surtout. Me demande pas pourquoi moi je suis né un jour. Depuis je me pose que des questions cheloues. Travailler pour s'éduquer c'est chelou. Pour être rentable et enfin trouver la mort. On fondra une famille qui se déchire un jour. Chelou. Renaître sous le soleil. La bouffe pleine de côtes de CB, c'est chelou. Qui vont nous filer des maladies chelou. On bouffera des cachets pour tenir le coup. Ces mêmes cachets qui vont tous nous foutre à genoux. On creusera bien la sécu et son trou. D'ailleurs à qui on doit cette dette, c'est flou. Les hôpitaux, les profs mal payés, chelou. Les racistes s'en vont bronzer. Renaître sous le soleil. Vache explose la couche d'ozone, mais c'est flou. C'est presque autant que les voitures, c'est chelou. On mange un burger sur une aire d'auto.
Attends, t'as dit quoi?
On culpabilise trop quand c'est flou. Si tu bois pour éponger, c'est que tu coules. Je me suis pas levé pendant nuit debout. Je suis parano quand on s'organise, c'est tout. Chelou. Renaître sous le soleil.
Et puis pour terminer cet épisode sur les archives inattendues, je vous propose d'écouter cet extrait du Téléphone sonne. C'était le 1er septembre 2017, émission consacrée à la chasse. Sur le plateau, Willy Schran, le président de la Fédération nationale des chasseurs, le naturaliste Marc Giraud et donc Hubert Rives. Claire Servajan, au milieu de tout ça, animait un débat plus qu'électrique.
France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, question sur la chasse, alors que la saison débutera dans quelques jours, la chasse générale, et qu'elle a même déjà commencé en Alsace. Question sur les chasseurs qui sont plus d'un million en France. Quelles sont leurs motivations? Quelles sont les conditions pour pouvoir s'adonner à ce passe-temps? Question notamment sur la sécurité qui concerne aussi bien les pratiquants que les promeneurs qui, pour certains, ont peur de se faire tirer dessus. On parlera notamment de cette pétition qui réclame depuis des années un jour sans chasse, peut-être un dimanche sans coup de feu. Puis on parlera aussi bien sûr de la cible des chasseurs, des animaux sauvages et des questions que cela peut poser en matière de biodiversité. Avec nous pour aborder tous ces sujets, Willy Schran, qui est le président de la Fédération nationale des chasseurs. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Marc Giraud, le porte-parole de l'ASPAS, l'association pour la protection des animaux sauvages. Bonsoir, bonsoir. Marc Giraud. Et bien sûr, toujours avec nous, l'astrophysicien Hubert Reeves, président de l'association Humanité et Biodiversité. Rebonsoir Hubert Reeves.
Rebonsoir.
Pour interpeller nos invités, le numéro c'est toujours le même, vous le connaissez, 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et bien évidemment, vous nous appelez que vous soyez chasseur ou pas. Ce soir, on va vraiment discuter tous ensemble. Un premier appel, c'est celui de Julien qui nous appelle de Fontainebleau. Bonsoir Julien. Bienvenue, Julien.
Oui, bonsoir à tous.
Pour quelles raisons avez-vous souhaité nous appeler ?
Alors, c'est vrai que le thème de la chasse, pour moi, il est un thème qui m'intéresse, parce que moi, je suis usager également de la nature, parce que je suis trailer.
Vous dites également, c'est-à-dire que vous êtes chasseur avant tout, c'est ça ?
Oui, je suis chasseur également, mais je suis aussi usager de la nature. Alors, en fait, ma question, c'est comment faire en sorte que les défenseurs de la nature puissent s'entendre ?
Comment on fait pour mettre tout le monde d'accord et comment on fait pour cohabiter ? C'est un petit peu ça votre question.
Oui, je voudrais dire ce qu'on attend des chasseurs.
Oui.
En particulier, je crois que nous sommes d'accord pour admettre que lorsqu'on veut faire une promenade en forêt et qu'il y a des tirs, c'est raté. Ça, c'est une vérité universelle. Pour avoir la paix, pour se concentrer dans une promenade en forêt, il ne faut pas un bruit de chasse. Ça, les chasseurs le comprennent aussi bien que moi, je suis sûr. Ce qu'on attend des chasseurs, c'est qu'ils ne font pas, c'est de prendre eux-mêmes des initiatives. Moi, j'aimerais que les chasseurs, un jour, décident, le dimanche, c'est pas de chasse. Là, on les prendrait au sérieux. Mais très souvent, quand il y a des crises, par exemple, quand il y a eu du gel dans la Camargue et que les oiseaux étaient gelés au sol, les associations ont demandé qu'on ralentisse ou arrête la chasse, on n'a pas vu d'associations de chasseurs se mettre au devant. Les chasseurs, ils sont toujours là pour allonger les dates de chasse. Je ne connais pas d'exemple où des chasseurs ont dit « Ben non, pour tel oiseau, parce que les femelles sont enceintes, il faudrait rediminuer. » Toujours, on a la même chose avec notre mouvement. Je ne suis pas contre les chasseurs. Vous l'avez dit, monsieur. Vous avez dit que j'étais contre les chasseurs. Je ne suis pas contre...
Ça,
ah ben, je vous ai entendu. Je vous ai entendu. J'ai l'enregistrement à la télévision.
Ah oui, mais vous avez dit, il est
contre les chasseurs. La preuve, c'est qu'il fait partie d'un mouvement qui s'appelle le ROC, le Rassemblement des Assemblements à la Chasse.
Non, opposant,
ce que vous n'avez pas dit, opposant. C'est que quand on m'a invité à être président de ce mouvement, j'ai dit à une condition, à deux conditions. La première, c'est que je ne suis pas un opposant systématique à la chasse. Donc, je ne suis pas opposant à la chasse. Et la deuxième, je n'aime pas être en opposition. J'attends qu'on ait des mouvements dynamiques qui mettent en avant la biodiversité, la situation de l'humanité par rapport à tous ces problèmes. Et là, les chasseurs, ils sont bien muets, il me semble.
Je vais répondre au professeur, c'est important.
Oui, et puis là, rapidement, et ensuite, il y a Joël qui vous posera une question au standard de France
Inter. D'abord, vous avez
parlé
du partage de la nature, monsieur le professeur. Bon, là, c'est un point fondamental entre nous. Je répète à nouveau... La propriété privée est quand même un droit universel de la Constitution française. Quand vous êtes chez vous, monsieur le professeur, et que vous êtes sur votre territoire, et que vous désirez chasser, que ce soit un dimanche ou un autre jour, c'est quand même votre droit fondamental. Les espaces publics, je dis bien les espaces publics, sont partagés de façon très stricte entre les chasseurs, l'État qui demande aux chasseurs d'intervenir une à deux journées par semaine, voire une journée par quinzaine, je prends les forêts domaniales par exemple, ils payent pour ça d'ailleurs, il faut le savoir. Mais il est quand même incroyable qu'on ait ici un débat de dire, c'est quand même facile de vouloir partager ce qui ne vous appartient pas. Vous êtes propriétaire d'une forêt, monsieur le professeur. Hein. Alors, vous êtes propriétaire de votre maison de campagne, j'entendais tout à l'heure. Vous êtes prêt à me partager ça dimanche après-midi? On va faire un barbecue, moi je m'installe chez vous, il n'y a pas de problème. On est dans la propriété privée. Ça c'est quand même poisson, fondamental.
Vous êtes propriétaire, mais avez-vous le droit de mettre le feu à votre forêt? Non. Il y a des lois plus générales que la propriété. Il y a le bien-être de la population, la nécessité d'avoir la possibilité...
Oui, la liberté des uns commence où s'arrête celle des autres, monsieur le professeur. Parce que là, je pense que vous allez beaucoup loin.
Et on attend que les chasseurs prennent des initiatives.
Alors, on les prend. C'est ça en biodiversité, c'est important ce que vous avez dit. En biodiversité, c'est un sujet qui nous est cher.
Alors, on va parler, pardonnez-moi, on va parler de la biodiversité.
De rétrécir les périodes de chasse. Je n'ai aucun exemple où des chasseurs ont dit, eh bien, regardons pour les animaux, pour le bien-être des animaux, ne chassons plus quand il commence à faire noir, ne chassons plus.
Vous vous trompez tout à fait. Je pense que vous êtes extrêmement compétent en astrophysique et vous avez fait rêver des générations, et moi y compris dans ma jeunesse. Je pense que quand on arrive sur le sujet de la chasse, vous êtes beaucoup moins précis et beaucoup moins bon.
Pardonnez-moi, Hubert Rivaud, qui êtes président de l'Agence de la biodiversité. La chasse, c'est un problème pour... La survie des espèces en France.
Ça n'est plus le problème majeur que c'était dans les années 70. Ça, il faut bien reconnaître. Mais je pense qu'on peut s'entendre, mais encore une fois, pour nous, l'important, c'est le partage. Les chasseurs agissent comme s'ils étaient maîtres et rois, parce qu'à la Révolution, ils ont le droit.
Chez eux.
C'est le dimanche. Oui, mais nous sommes tous chez nous.
On est où, nous?
Nous sommes tous chez
eux.
Non,
chez eux.
Et nous, on est chez les chasseurs.
On dit qu'il faut partager. On est tous chez nous, donc partageons. Et partageons, ça veut dire faisons les uns et les autres des sacrifices. C'est une,
nous partageons c'est une, dans le temps,
c'est une motivation qui est raisonnable, s'asseoir autour de la table
de
et dire ce que
court.
Nous demandons et,
vous le savez.
Et décidons. Et vous, vous avez dit très clairement, jamais nous négocierons cela.
Le dimanche, et, jamais.
Non, jamais. Là, ça, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt au partage qui, de tout le monde.
Et
si tout le monde vous dit,
c'est
la majorité,
c'est
la majorité vous dit. Cessez de chasser le dimanche, vous vous dites non, c'est notre droit. Mais vous ne partagez rien du tout.
Ah,
vous
si
n'êtes pas du tout
on a quelques dimanches
vous n'êtes pas
an,
démocratique.
Mais, non mais vous rigolez, on n'arrête pas de partager, on a quelques dimanches par an.
Mais vous ne voulez pas admettre,
on a
si toute la population le demande,
ah, vous n'y arriverez
si toute
pas,
la population le demande.
Alors, en attendant...
C'est clair,
vous, mais je sais, mais c'est là que je dis
qu'on a raison, c'est vous qui avez tant, professeur.
En attendant,
vous êtes beaucoup plus doué dans les étoiles.
On va partager le micro avec...
raisonnable.
On va partager le micro avec Bruno qui nous appelle...
s'enfermer dans sa position
je sais pas où.
Et y tenir en disant jamais, jamais. Vous vous dites jamais.
Ah mais c'est pour ça jamais, oui c'est sûr. Oui.
Hubert Rives, les chasseurs font de l'écologie?
Moi je voulais dire, je vous admire. Je vous admire de défendre une cause si impopulaire et ce serait bien ce
mais
que je vous dirais.
Laissez-le parler, oui,
je
s'il
dirais,
vous plaît.
Si, ce que je pouvais vous faire une suggestion, vous avez un poste important, vous avez une grande influence sur les chasseurs, vous reconnaissez comme nous qu'il y a des problèmes. On aimerait que vous soyez actifs justement dans l'amélioration des comportements des chasseurs. Au lieu de les défendre comme vous faites par des arguments qui valent ce qui valent. On aimerait bien
moi,
que
j'aurais
soyez...
voulu qu'on débatte ensemble de biodiversité. Mais, vous nous êtes sur le dogmatisme de l'antichasse. Vous êtes venu pour m'expliquer qu'il fallait diminuer le nombre de chasse.
Si vous parlez
c'est dommage qu'on n'ait pas pu parler d'écologie.
Pardon.
C'est dommage.
Quand vous parlez ensemble, on ne vous entend plus.
Qu'est-ce que c'est qu'un anti-chasse pour vous, M. Reid?
Je ne suis pas anti-chasse.
Ah bon,
je crois que la chasse
est importante. Ça a toujours été votre formule pour vous sortir de tout. Mais vous êtes un anti-chasse primaire.
Non,
la sectariste parmi les
chasseurs. Pour la chasse de régulation. Bon. Pour moi, les chasseurs, c'est comme les pompiers. On fait appel à eux quand il y a un problème.
Non, et là,
c'est
important. Mais sans la chasse, mais qu'est-ce qu'il y aurait des milieux en France? Mais qu'est-ce qu'on aurait sauvé comme zone humide? Bien avant que vous soyez professeur, bien avant que vous ayez écrit des bouquins, ou vous qui fermez les cloches de verre dans la Drôme, où on n'est même plus capable de trouver la moitié des espèces locales.
S'il vous plaît, nous repartons une nouvelle fois au standard.
C'est vous qui faites n'importe quoi, monsieur.
On aimerait que les chasseurs prennent des initiatives qui nous encourageraient à comprendre qu'en fait, ce qu'ils font, c'est vraiment ce qu'ils prétendent faire. Mais c'est jamais prouvé.
Alors, bon, écoutez, prouvez-nous, monsieur Rive, que vous êtes capable de parler vraiment de biodiversité avec nous.
Non, mais vous foutez
travaillons
du...
ensemble.
Vous
moi,
foutez
je ne suis pas. Je suis pas non, je parle pas du dogmatisme de l'espace.
D'accord.
Je parle d'un professeur.
On est des naturalistes.
Il y a des
de
compétences
terrain,
effectivement
animaux,
en astrophysique, hein. Mais je pense on pourrait progresser, à mon avis, sur votre vision de la biodiversité avec la chasse. Je pense qu'on est bloqué sur un truc fondamental qui est de dire. Aujourd'hui, la chasse, c'est tuer des animaux. Il y a un blocage de ce côté-là. J'entends bien.
Oui,
moi,
vrai.
Je dis la
sans
chasse
fusil,
aujourd'hui
mieux, hein.
Peut être le meilleur outil. Hein, pour gérer la biodiversité. Donc, on peut tout à fait travailler avec les chasseurs, mais sectariser, dogmatiser. Alors,
mais
là,
c'est vous
facile.
Qui faites des clivages avec vos parisiens bobos.
Je suis d'accord avec ce que vous dites. Alors,
attendez.
Se mettre autour d'une table pour discuter ensemble un partage. Et un partage, ça veut dire...
Je reviens.
Laissez-le finir, semaine, pardon, Willy Schrader.
Au moins un jour pour les autres. C'est ça, un partage.
C'est pas la question.
C'est que chacun cède quelque chose.
On a une biodiversité ordinaire,
non,
monsieur,
j'y arriverai pas,
qui aujourd'hui a des vrais problèmes. On maintient des territoires par l'argent des chasseurs bénévoles, vous le savez. C'est là-dessus qu'on doit travailler. Travaillons sur cette biodiversité ordinaire. Là, il y a un vrai boulot à faire.
Travailler ensemble, c'est 19h59 et 45 secondes. C'est terminé. Un grand merci, d'être venu.
Merci
à tous les trois. Willy Schran, président de la Fédération nationale des chasseurs. Marc Giraud, un grand merci à Hubert Reeves qui a passé ces deux heures avec nous.
Un immense merci à Sabine Dahuron qui nous a permis de retrouver toutes ses archives avec Lina. Cette émission a été réalisée par Paul Laporte avec à la technique Mathieu Bérini. Les 5 épisodes de cette série Hubert Reeves, penseur d'étoiles, sont à retrouver en podcast sur franceinter.fr et sur l'application Radio France.